Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 16 mai. Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour. Les fauteuils rouges se refont une beauté. Compte à rebours pour le déconfinement des salles de cinéma. Elles sont toujours soumises cependant à un protocole sanitaire anti-Covid. Réunion ce dimanche du Conseil de sécurité de l'ONU après des destructions à Gaza et des roquettes sur Israël. Abattement, incompréhension dans la cité Pierre et Marie Curie d'Ivry-sur-Seine où un ado de 14 ans et demi a tué une jeune fille de 17 ans pour une banale histoire de rivalité sur les réseaux sociaux. Et puis, ce sera Marseille, la grande exposition de l'été. L'artiste américain le plus cher du monde, Jeff Koons, s'invite au MUCEM.
Vous parliez des cinémas qui vont rouvrir. Eh bien, parmi les invités de la matinale, Patricia Martin, à 7h50, vous recevrez...
La réalisatrice Charlène Favier, la comédienne Noé Habitat, pour un film, donc Slalom, qui sera en salle à partir de mercredi.
Et à partir de 8h20 ce matin, notre invité, le philosophe Raphaël Antoven. Il publie « L'école des dames » aux éditions de l'Observatoire.
France Inter. La pluie pourrait bien, mercredi, contrarier la réouverture des terrasses. Alors ce sera une météo pour se faire une toile, car les 2000 cinémas du pays rouvrent eux aussi dans 4 jours, selon un protocole anti-Covid, jauge de 35% pour l'instant, 2 sièges entre chaque spectateur ou chaque famille. Les salles se préparent à retrouver leur public, c'est le reportage à Paris de Victoria Coussa.
Derrière les grilles en fer forgé du Brady, son directeur Fabien Houy règle la machine à billets derrière le guichet.
Il me reste à tester les cartes d'abonnement.
La salle déserte va de nouveau se remplir, seulement 35 spectateurs au lieu de 100 dans un premier temps, mais Fabien prend tout ce qu'il y a à prendre.
On était une jauge à 0% pendant 7 mois, hein, donc 35% c'est déjà un bon début. Ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer 3 semaines, donc ça va être le temps de se remettre un petit peu en route.
En attendant, il faut réorganiser les séances pour coller au couvre-feu. La première débutera à 9h du matin. Dans un autre cinéma historique de la capitale, le grand action Alexandre Tsekenis est chargé du public qu'il compte rassurer.
Des retrouvailles qui vont se faire sans inquiétude par rapport aux restrictions, avec des entrées et des sorties séparées, du gel hydroalcoolique qui est à disposition partout. Et puis d'ailleurs, dans un cinéma, les spectateurs, pendant le film, ils ne parlent pas. Ils ne mangent pas non plus, ils ne boivent pas non plus. On n'a pas du tout de confiserie, donc aucun risque de contamination pendant une séance de cinéma chez nous.
Pas besoin de convaincre Quentin, un habitué, il fera partie des premiers à y retourner.
J'ai envie de retrouver le plaisir de la salle obscure, de voir un film avec un public. Ça n'a rien à voir quand on est entraîné comme ça par l'émotion de la foule.
Et vu le nombre de messages de soutien sur la façade, il ne sera pas le seul dans la pénombre du grand action.
Victoria Coussa, et à quelques jours de la réouverture des commerces, des lieux culturels, des cinémas donc et des terrasses, 122 morts du Covid-19 à l'hôpital ces dernières 24 heures. La décrue de la pandémie continue dans l'Hexagone. La France, qui a franchi le cap des 20 millions de personnes, ayant reçu au moins une dose de vaccin et le gouvernement s'est fixé comme objectif de vacciner 30 millions de personnes en tout, bien sûr, à la mi-juin.
Aujourd'hui et pour la troisième fois cette semaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisira de la crise israélo-palestinienne.
Les 15 pays représentés au Conseil, dont ses 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne, pourront-ils enfin arrêter une position commune sur la question? Rien n'est moins sûr. Les 2 précédentes réunions n'ont même pas pu produire le moindre texte commun. Pourtant, Éric Biégala, cette fois-ci, les circonstances sont légèrement différentes.
Dès qu'il s'agit d'Israël aux Nations Unies, toutes les initiatives sont un peu systématiquement bloquées par les États-Unis, alliés indéfectibles de l'État hébreu. Les 2 premières réunions s'étaient déroulées cette semaine à huis clos et n'avaient même pas débouché sur le moindre texte, y compris appelant à une simple désescalade, par exemple. Ce dimanche, la réunion sera publique et ça change la donne, estime le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.
Ça veut dire que chacun a accepté que le Conseil soit public. Ça veut dire très concrètement que et les Palestiniens et les Israéliens s'exprimeront là. C'est ça la nouveauté. Chacun pourra dire ce qu'il veut pour sortir de l'impasse et au moins les membres du Conseil de sécurité dont nous faisons partie pourront tracer des chemins pour aboutir à une paix indispensable, au moins une trêve. La paix mettra sans doute du temps, mais la trêve, elle est indispensable pour la sécurité et des populations israéliennes et des populations palestiniennes.
Indépendamment du Conseil de sécurité de l'ONU, 3 pays ont dépêché des émissaires en Israël et dans les territoires palestiniens pour tenter une médiation. Les États-Unis, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Seul pays à avoir de vrais contacts avec les Palestiniens du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza.
Éric Biégala, le premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou prévient que les opérations sur Gaza ne sont pas terminées, qu'elles continueront aussi longtemps que nécessaire. Le président américain Joe Biden a téléphoné aux dirigeants israéliens et palestiniens pour lancer un appel au calme, et cela quelques heures après les bombardements israéliens qui ont pulvérisé le local de médias internationaux dans la bande de Gaza. Les civils avaient reçu l'ordre d'évacuer auparavant, comme l'explique le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne.
Ce n'est pas une tour pour les médias, et ce n'est pas un centre de médias, c'est une tour utilisée par le Hamas, des bureaux de leur renseignement militaire, utilisés à des fins militaires contre nous. De la recherche et développement dans le bâtiment pour mettre au point des armes contre Israël. Et troisièmement, des équipements technologiques très développés dans et sur le bâtiment que le Hamas a utilisé pour entraver ou limiter les activités de l'armée en Israël. Ce sont les trois raisons pour lesquelles l'armée a décidé de bombarder cette tour. Et oui, nous sommes attentifs à la sécurité des journalistes et à leur liberté d'exercer, mais le Hamas, à dessein, fait tout pour entremêler son infrastructure militaire dans des infrastructures civiles.
Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne, avec Frédéric Mettezo.
En France, c'est l'abattement et l'incompréhension pour les habitants de la cité Pierre et Marie Curie d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.
Marjorie, une adolescente de 17 ans, a été poignardée à mort avant-hier par un garçon d'à peine 15 ans et dont la garde à vue d'ailleurs a été prolongée jusqu'à aujourd'hui. À l'origine du drame, une rivalité d'enfance sur les réseaux sociaux entre la petite sœur de la victime et les élèves de son collège. Pour le quartier, c'est une véritable tragédie. Claire Lesse.
À part déposer des bougies, des fleurs là où Marjorie a été tuée, les habitants ne savent pas vraiment quoi faire. Nadine n'a pas dormi de la nuit, elle partage sa tristesse avec ses voisines.
Pourquoi un tel drame? Comment ça a pu se passer? Juste là, à côté, dans une aire de jeu, devant des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des adultes. J'aurais jamais pensé qu'il puisse se passer quelque chose comme ça.
Et Nadine le répète, la cité est calme. En 24 ans, elle n'a jamais eu de problème. Comme elle, un père de famille est choqué, il connaissait Marjorie.
C'est quelqu'un qui faisait des études, elle était toujours dans les bouquins. Elle allait passer son bac au mois de juin et elle voulait faire des études d'ingénieur. C'est une fille qui avait des rêves. Et là, on a brisé ses rêves. À cause d'une histoire de réseaux sociaux. J'ai des enfants, j'ai peur pour mes enfants. Que demain, que ce ne soit pas eux qui soient dans une engrenage pareille.
Ces réseaux sociaux où certains jeunes s'insultent, s'attaquent avec violence, c'est ce qui a conduit au meurtre de Marjorie. Selon sa mère, Odile, elle demande aux parents de la cité d'agir.
Beaucoup d'enfants font ce qu'ils veulent. Beaucoup de parents ont baissé les bras. Il faut que les parents reprennent leur rôle de parents. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est ma fille. Hier, c'était d'autres jeunes qui sont morts. Mais je pense aux enfants de demain.
Malgré la douleur, Odile promet déjà de se mobiliser dans son quartier pour que ce drame soit le dernier.
Reportage de Claire Lesse. Toujours beaucoup d'interrogations aux plantiers dans le Gard après la reddition vendredi soir de Valentin Marcon, suspecté d'avoir assassiné mardi dernier le patron de la scierie où il travaillait ainsi qu'un collègue. Sans surprise, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures hier soir. Elle se terminera ce dimanche soir. Et fait inhabituel, Valentin Marcon n'a pas souhaité être assisté par un avocat. Ce sera la grande exposition du déconfinement et de l'été à Marseille. Jeff Koons s'invite au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. L'artiste américain le plus cher au monde propose une rencontre entre 20 de ses œuvres qui ont été prêtées par la Fondation Pinault et des objets de la collection du musée, des objets d'art populaire. C'est un grand écart qui va surprendre et interroger les visiteurs. Isabelle Pasquier.
Cette exposition, c'est un dialogue improbable entre Jeff Koons, symbole de l'hystérie du marché de l'art contemporain et des objets d'art populaire tout simples, couronnes de mariée, tableaux de cheveux, animaux de manège. Au centre de l'exposition, avec son esthétique kitsch, son iconique cœur en acier inoxydable rouge, qu'il a installé à côté d'ex-voto, des petits cœurs en métal offerts par des anonymes dans l'espoir d'un amour. Et ce sont eux qui nous font vibrer. Pourtant, ils ne valent rien sur le marché, alors que les œuvres de Koons atteignent des dizaines de millions de dollars. Alors, question posée à l'artiste resté à New York, qu'est-ce qui fait selon lui qu'un objet est une œuvre d'art?
Tout ce dialogue dans l'exposition montre qu'il n'y a pas de place pour le jugement, la hiérarchie, la ségrégation. Toute l'exposition est basée sur l'acceptation. Chaque chose est belle et digne d'être exposée. C'est dans cet esprit que nous avons sorti des objets des réserves pour les mettre en lumière. C'est en cela que je crois et je veux que l'exposition montre ça aux visiteurs.
Bilan, une exposition qui offre une lecture décalée sur les objets d'art populaire et sur les œuvres de Jeff Koons, trophée pour milliardaire.
Exposition Jeff Koons au Mucem à Marseille jusqu'au 18 octobre. Un mot de sport et cette grande première pour les Auvergnats. Le club de Clermont, jusqu'ici en Ligue 2, accède à l'élite et jouera la saison prochaine en Ligue 1 malgré sa défaite à Caen hier soir de 2-1.
C'était le journal de Laurence Thomas, Le Ciel.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bah on dira qu'il y a de la pluie au sud et puis des averses au nord, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait Eric, c'est la tendance générale de la journée, dans des températures souvent en dessous des valeurs normales pour l'époque, de 14 degrés près de la Manche à 17 en général, jusqu'à 19 en Dauphiné et 21-25 pour les villes méditerranéennes. La perturbation d'hier va encore arroser aujourd'hui les régions situées entre l'Aquitaine, les Pyrénées et les Alpes, en donnant de la neige à haute altitude et pas mal de vent sur les crêtes alpines, également entre la Corse et le continent et dans le domaine de la Tramontane. Au nord d'un axe Poitou-Charentes-Val-de-Saône, ne vous fiez pas trop aux éclaircies matinales, des averses vont rapidement se développer avec cet après-midi de l'orage entre le nord de la Loire et le Grand Est et un vent d'ouest qui deviendra très turbulent.
Jean-Michel Golinski, Météo France.